Nous sommes le mardi 27 septembre 2016 et voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. And the winner is Hillary Clinton. La démocrate a marqué des points cette nuit aux États-Unis face à son rival républicain Donald Trump lors du premier face-à-face télé de la campagne présidentielle. Nous irons sur place dans un instant.
La Deutsche Bank vacille en Allemagne. Son cours en bourse a chuté brutalement hier. Un colosse au pied d'argile menacé par la justice américaine, nous racontera notre correspondant à Berlin.
En France, la lutte contre le chômage s'annonce encore longue et difficile. Après quelques mois de mieux, les chiffres sont repartis dans le rouge en août et la croissance molle n'augure pas de retournement spectaculaire.
Les salariés d'Alstom à Belfort font le déplacement aujourd'hui en région parisienne pour manifester et tenter de sauver les 400 emplois menacés sur le site.
Et l'école française creuse les inégalités sociales. Rapport à accablant rendu ce matin par le Conseil national de l'évaluation du système scolaire. Deux boxeurs sur un ring et un combat tendu, nerveux, disputé. Le premier débat télé de la campagne présidentielle aux États-Unis a rempli ses promesses cette nuit. La démocrate Hillary Clinton a affronté le républicain Donald Trump, deux personnalités aux antipodes. Et l'on peut dire ce matin que l'ex-secrétaire d'État a marqué des points face au milliardaire. Frédéric Carbone a suivi les échanges cette nuit.
Dans une campagne aussi négative, avec deux candidats qui s'accusent de tous les maux, le débat ne peut pas être courtois. On se coupe donc la parole, le modérateur est invité à arbitrer entre les deux rivaux. Là, c'est sur la déclaration d'impôt que Donald Trump refuse de rendre public, mais c'est le cas aussi sur l'économie ou la politique étrangère. Le candidat républicain clame régulièrement non, c'est faux. Il est vrai qu'il subit les attaques d'Hillary Clinton, qui a décidé de dévoiler le vrai visage de Donald Trump. Les termes les plus rudes sont employés, comportement raciste, escroquerie, incompétence, mais ils interviennent lors de démonstrations soigneusement préparées. Le candidat républicain est plus dans l'improvisation, dans la réaction, et Hillary Clinton enfonce le clou.
Je crois que Donald m'a critiqué pour m'être préparé pour ce débat, et c'est vrai. Et vous savez pourquoi je me suis également préparé? Pour être présidente, et c'est une bonne chose.
Apparemment, en tout cas, Donald Trump ne s'était pas préparé à être le centre du débat. Face à une dizaine de républicains lors de la primaire, il pouvait être parfois absent ou déconcentré. Dans un face-à-face présidentiel, ce n'est pas possible. Et malgré des thèmes qui lui étaient favorables, comme la sécurité ou l'économie, c'est bien Hillary Clinton qui a dicté le tempo.
La campagne présidentielle aux États-Unis, suivie par notre correspondant Frédéric Carbone. Les États-Unis qui n'ont peut-être pas tourné la page de la guerre froide. On peut se poser la question après le choix défendu hier par le secrétaire à la défense de moderniser les 400 missiles balistiques nucléaires intercontinentaux. Ashton Carter explique vouloir corriger maintenant des décennies de sous-investissement dans la dissuasion nucléaire. Un parfum de guerre froide aussi entre Washington et Moscou. La Russie dénonce ce matin la rhétorique inadmissible des Occidentaux. Réaction aux accusations de crimes de guerre et de barbarie prononcées entre autres par l'ambassadrice américaine à l'ONU. Moscou est pointé du doigt pour son soutien à l'offensive sanglante du régime syrien de Bachar al-Assad en cours sur Alep. Alep où le pain et les médicaments se raréfient dans les quartiers rebelles, bombardés pour la quatrième nuit consécutive. En Colombie, il aura fallu plus d'un demi-siècle pour mettre fin au conflit avec les FARC. Le président colombien vient de signer un accord de paix avec la guérilla marxiste. Dans la foulée cette nuit, l'Union européenne a suspendu les FARC de sa liste des organisations terroristes. Le conflit a fait plus de 260 000 morts, 45 000 disparus et près de 7 millions de déplacés. La transition politique n'est pas à l'ordre du jour. En Azerbaïdjan, un référendum organisé hier a approuvé massivement quelques changements dans la constitution qui vont permettre au président Aliyev et à son clan de continuer à tenir le pouvoir d'une main de fer. Le mandat présidentiel est rallongé de 2 ans et l'âge minimal pour se présenter à la présidentielle est abaissé. Tout ça pour organiser la passation de pouvoir entre le père et le fils, Bruno Kaden.
Ce référendum ne sert qu'à confirmer, avec un vernis de démocratie, une décision déjà entérinée. Toutes les modifications prévues dans le scrutin ont déjà été approuvées par la Cour constitutionnelle. Ce référendum n'est donc qu'une pure formalité. Il s'agit, d'après le dirigeant du principal parti d'opposition, de concentrer tous les pouvoirs entre les mains d'une seule famille. Les deux principaux amendements prévoient en effet d'étendre de 5 à 7 ans le mandat présidentiel et d'abaisser à 35 ans l'âge minimum pour se présenter à l'élection présidentielle. présidentielle. Des mesures qui protègent le clan Aliyev. Ilham Aliyev, 54 ans, est au pouvoir depuis 2003, date à laquelle il a succédé à son père, Haïdar, ancien général du KGB, président pendant 10 ans. Le but étant de permettre à Ilham de transmettre ensuite le pouvoir à son fils. Le Conseil de l'Europe, dont l'Azerbaïdjan est membre, craint un bouleversement profond de l'équilibre des pouvoirs dans le pays, avec la création de postes de vice-président non élus et la possibilité pour le chef de l'État de convoquer à sa convenance des élections anticipées. Amnesty International a de son côté dénoncé des arrestations et des intimidations avant le référendum. L'opposition a cependant tenté d'organiser des protestations.
Un jugement pour l'histoire. La Cour pénale internationale doit rendre aujourd'hui son verdict contre un djihadiste malien qui a reconnu avoir détruit des mausolées protégées à Tombouctou. Décision très attendue par la population de la ville en quête de justice et par des ONG qui rêvent de mettre fin à l'impunité pour la destruction de biens culturels. Les mausolées de Tombouctou, dont certains remontent au XIVe siècle, ont été la cible des terroristes islamistes lors de leur offensive dans le nord du Mali en 2012. Un chiffre vertigineux, 92% de la population mondiale respire un air trop pollué, trop chargé en particules fines. Chiffre publié ce matin par l'Organisation mondiale de la santé. Une action rapide pour faire face à la pollution atmosphérique est nécessaire d'urgence, avertit l'OMS. Des efforts en matière de transport moins polluants, une meilleure gestion des déchets ou encore des industries plus propres. Panique sur les marchés pour la Deutsche Bank. L'établissement allemand, sous la menace d'une amende de 14 milliards de dollars aux États-Unis, a connu hier une journée noire à la bourse de Francfort. L'institution semble de plus en plus fragilisée. Cyril Sauvageau nous appelle de Berlin.
Rien ne va plus pour la Deutsche Bank, ce colosse au pied d'argile. Signe de la nervosité des marchés, il a suffi de peu de choses hier pour faire dévisser l'action à Francfort. Un simple article de presse affirmant qu'Angela Merkel n'envisage pas de débloquer l'aide de l'État. La Deutsche Bank devra donc se débrouiller seule pour sortir de l'ornière. Et c'est bien ce qui préoccupe les milieux financiers. En pleine restructuration, la banque a essuyé des pertes historiques l'an passé. Elle a terminé en queue de peloton au test de résistance des banques européennes. L'ancien fleuron du système bancaire allemand est devenu l'une des banques les plus dangereuses du monde, capable de déclencher à elle seule une crise systémique. Dans ce contexte, l'amende de 14 milliards de dollars réclamée par les Américains pour solder le litige des subprimes fait figure de coup de grâce. La facture sera revue à la baisse, des négociations sont en cours, mais malgré tout, la banque pourrait se retrouver au plus mal. Officiellement, une augmentation de capital n'est pas à l'ordre du jour, mais la Deutsche Bank n'aura peut-être pas d'autre choix que d'appeler les actionnaires à la rescousse.
8h07 sur France Culture, la suite du journal Amélie Perry. On en vient à l'économie en France et la grosse déception sur le front du chômage.
Oui, la tendance était ces derniers mois à l'amélioration, mais les chiffres du mois d'août, publiés hier par Pôle emploi, replongent dans le rouge. 50 000 chômeurs en plus, une hausse d'1,4% sur un mois. Explication au ministère du Travail, les attentats de juillet, ils auraient mis un coup d'arrêt au secteur du tourisme et du commerce. L'enjeu est économique, social, mais aussi hautement politique. François Hollande a fait de la baisse du chômage une condition à sa candidature à la présidentielle. Et le chef de l'État n'a pas lésiné sur les moyens avec un grand plan de formation et des baisses de cotisations sociales à l'embauche. Alors Jean-Marc Chardon, les effets attendus seront-ils au rendez-vous ?
L'optimisme du gouvernement est loin de faire l'unanimité. Déjà, il y a l'UNEDIC qui, après une amélioration d'ici la fin de l'année, prévoit une augmentation du nombre de demandeurs de 130 000 l'année prochaine, en incluant les catégories A, B et C. Cela faute de croissance suffisante qui passerait à 1,2%. Un ralentissement qu'entrevoit aussi l'OCDE. À l'Institut de prospective COR Execode, son directeur Michel Didier table dans ses perspectives sur une croissance ramenée à 1,1%, de quoi stabiliser le chômage, au mieux de le faire baisser, mais de fort peu.
Il faudrait plus pour faire baisser le chômage. Alors, ceci étant dit, par rapport à la stabilité du chômage que nous prévoyons, grosso modo, il y a eu des mesures très temporaires avec les 500 000 personnes qu'on met en formation, qui sont en fait des chômeurs en formation. Mais même si on les enlève, il ne faut pas oublier que les 500 000, ils vont tourner. Ça va être 50 000, puis 50 000, puis 50 000. Au total, sur l'année, ça va faire une petite baisse du chômage, mais pas tellement significative. Il y a l'autre mesure qui est les 2000 euros de baisse des charges sociales pour l'embauche. Bon, ça aura un petit impact. Donc au total, on peut penser qu'on est dans une stabilisation, voire une légère baisse du chômage tendanciel. Alors du mois le mois, on verra, mais tendanciellement une petite baisse, mais qu'elle va être temporaire. Il faut plus de croissance que 1,1% pour faire vraiment baisser le chômage. C'est tout à fait possible. C'est à notre portée. Mais il faut des mesures de politique économique qui modifient les conditions dans lesquelles la croissance se fait en France.
Et c'est ce débat, aussi économique que politique, qui devrait tenir le haut de l'affiche dans les 6 mois à venir.
Et dans ce contexte, on comprend pourquoi le gouvernement s'engage autant sur le cas d'Alstom et les 400 emplois menacés sur le site de Belfort. Les salariés attendent le plan de bataille de Bercy dans les jours qui viennent, car hier, la rencontre avec la direction ne leur a apporté aucune garantie. Aujourd'hui, les syndicats ont donné rendez-vous aux salariés à Saint-Ouen, en région parisienne, devant le siège du groupe. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Amélie Berrier.
Les syndicats ont même loué un TGV made in Belfort pour convoyer les manifestants.
Oui, alors attention, gelé ne veut pas dire abandonné, comme le disait hier le PDG d'Alstom. Le site de Belfort est donc encore bien loin d'être sauvé. Car le PDG du groupe, M. Boupard Lafarge, l'a rappelé hier, l'activité sur les sites français a chuté de 30% l'année dernière. Tout l'enjeu pour le gouvernement est donc de tenter de combler l'inactivité de Belfort entre 2019 et 2021, dans l'attente du TGV du futur, dont la SNCF pourrait commander entre 50 et 200 rames. Sauf que même si l'État trouve un accord avec les régions, et la SNCF pour d'éventuelles commandes, pas sûr qu'elles suffisent. Puisque si un accord cadre a bien été signé entre les régions et la SNCF et Alstom pour la commande de 1000 TER, seulement un quart d'entre eux ont été financés et sont en cours de livraison. Quant aux éventuelles 6 rames TGV pour la liaison Lyon-Turin, elles ne représenteraient que 6 mois de travail.
Alors Hakim, il faut souligner qu'Alstom est en grande difficulté en France, mais se porte extrêmement bien à l'international. Comment on l'explique ?
Oui, avec plus de 30 milliards d'euros de commandes à l'étranger, Alstom connaît même une année record. La première signature, par exemple, du TGV, le premier TGV aux États-Unis entre Washington et Boston. C'est une première pour un TGV aux États-Unis. Sans parler des 1600 locomotives pour l'Inde, dont seulement 5 seront fabriquées à Belfort. Sauf que pour décrocher ces contrats et les crédits qui vont avec, la majorité des clients, eh bien, veulent du transfert de technologie et de la production locale pour avoir des emplois locaux. Car dans ces pays, il y a souvent beaucoup de chômage. Et cela permet de résorber le chômage. Mais il ne faut pas se leurrer, dans un monde globalisé où la délocalisation est devenue légion pour les grands groupes, cela permet aussi à Alstom de gagner beaucoup d'argent. À commencer eh bien, par la Pologne, par exemple, à Katowice, où par exemple le TGV, le métro de Riyad sera fabriqué. Mais aujourd'hui, Alstom est face à une concurrence mondiale, à commencer par la Chine, avec aujourd'hui qui fabrique de très grandes locomotives, à Bakou, notamment dans le fret, qui est très compétitive en Afrique, sans parler aujourd'hui de l'allemand Siemens, principal rival, ou encore désormais de l'espagnol CAF qui serait, dis donc, très bien placé pour remporter le méga contrat de 3 milliards d'euros pour le renouvellement des rames RER en région Île-de-France.
Hakim Kasmi, merci beaucoup. Un bonnet d'âne pour l'école française. Le système scolaire français est le plus inégalitaire de l'OCDE. C'est le Conseil national de l'évaluation du système scolaire qui l'affirme. Le CNESCO a mené une vaste enquête inédite à partir d'études de chercheurs français et étrangers. Conclusion, notre école fabrique des inégalités qui se creusent en plus car les politiques éducatives menées ces 3 dernières décennies ne sont pas efficaces. Explication avec Sonia Bourane.
Pour lutter contre les inégalités, la France mise sur l'éducation prioritaire, donner plus de moyens à ceux qui ont le moins de chances à l'école. Lancée dans les années 80, cette politique devait être provisoire, le temps de résorber les inégalités. Mais non seulement le système a perduré, mais en plus, il a aggravé les difficultés des élèves. Nathalie Mons est présidente du CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire.
Certes, d'un côté, on a mis plus de moyens, notamment pour réduire un tout petit peu la taille des classes. Mais de l'autre côté, on s'est retrouvé avec des temps d'apprentissage qui sont raccourcis, puisqu'il y a des problèmes de discipline dans l'éducation prioritaire, plus que hors de l'éducation prioritaire. On a des enseignants qui sont de moins en moins expérimentés. On a des enseignants qui, peu formés, n'ont pas développé les bonnes méthodes pédagogiques pour les élèves les plus défavorisés. Et on a des contextes d'indiscipline qui ne sont pas porteurs pour les apprentissages.
L'efficacité de l'éducation prioritaire n'a jamais été prouvée et la plupart des pays ont abandonné ces dispositifs. La solution, engager une vraie politique de mixité scolaire et ne pas se contenter de quelques mesures timides comme ce qui s'est pratiqué ces dernières années.
Elle, aux Oscars, le film de Paul Verhoeven, Elle, a été sélectionné hier par le Centre National du Cinéma pour représenter la France lors du Grand Rendez-vous américain. Elle, c'est une production franco-allemande, premier film français pour le néerlandais Verhoeven, le réalisateur de Basic Instinct. Il met en scène Isabelle Huppert en femme d'affaires, violée chez elle un soir et ses relations ambiguës avec son agresseur cagoulé. L'an dernier, c'était Mustang de la franco-turque Deniz Gamze Ergüven qui avait porté les couleurs de la France. La France boudée par les Oscars depuis 1993 et Indochine de Régis Varnier. On termine par le temps de ce mardi, encore du soleil sauf sur la pointe bretonne, le Pays Basque et les Alpes du Sud où des pluies, voire des orages pourraient éclater. Les températures, on a ce matin 8 à 12 degrés à l'intérieur des terres, 14 à 19 sur les littoraux. Cet après-midi, prévoyez 20 degrés à Brest, 21 à Belfort, 22 degrés à Paris, 24 à Grenoble, 26 à Toulouse et 28 à Montpellier, Guillaume Erner.
Qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas un algorithme qui fait ces prévisions?
Ah, alors ça, il faudrait demander à Météo France.